Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cordialement, Zoé.
Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'ai pas abordé dans les épisodes précédents, mais qui est tout aussi important. Je vais accueillir Mickaël, qui a connu la prison ferme. Il va nous raconter son parcours qui mêle à la fois le personnel et le professionnel, comment il s'est construit et comment il est devenu la personne qu'il est aujourd'hui. Bienvenue, Mickaël. Est-ce que tu vas bien ?
Ça va, très bien, oui.
Bah merci de venir dans le podcast aujourd'hui et de venir nous partager ton histoire. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais dans la vie ?
Alors, je me présente, je m'appelle Mickaël. Je suis gérant d'une société dans le bâtiment.
Et du coup, on va commencer ce podcast par ta jeunesse. Est-ce que tu peux nous parler de toi, de ce que tu faisais jusqu'à tes 22 ans, de ton entourage, etc.
Tout d'abord, je viens d'une famille italienne immigrée en France. J'ai deux sœurs. Donc j'ai vécu dans une banlieue au nord de la France. C'est ce qui m'a permis de forger mon caractère. Car pour devenir quelqu'un, il faut se battre, se raccrocher à un but. J'ai fait une formation dans un lycée horticole à Bordeaux. J'étais en bac pro première année.
Okay. Et du coup, tu as quitté le nord de la France et tu t'es installé tout seul à Bordeaux ?
En fait, oui, on a dû être muté par rapport à la profession de mon beau-père.
Ok.
On a été muté sur Bordeaux. Et même avant ça, j'étais déjà dans un lycée horticole dans le nord de la France.
Ok.
Et j'ai fini justement mes études au lycée de Bordeaux.
Ok. Donc tu recommençais de toute façon une vie à Bordeaux, même tous tes potes et tout ça.
Exactement.
T'as tout quitté, ok.
J'ai tout quitté et recommencé de zéro. Forcément, les fréquentations, tu vas vers les gens qui te ressemblent. Donc, c'est vrai que moi, je viens de la banlieue, donc mes références, c'était un peu ce type de personne. Suite à ça, ma première année de bac pro, vers février, en fin d'année, on avait l'habitude de se réunir à un espace vert en bas du lycée. Et ce jour-là, en sortant du bahut du lycée, j'ai pris le scooter et je suis passé devant une personne qui était piéton, hein. Et je me suis aperçu que je prenais le mauvais chemin. Et en faisant demi-tour, la personne m'a violemment frappé à la poitrine.
Sans raison.
Sans raison, sans rien.
Et t'avais quel âge, toi, là ?
J'avais 22 ans. C'était en 2007.
Ok.
Ouais. Mon histoire commence là. Je suis tombé par terre avec le scooter. Je me suis relevé. J'étais un peu énervé. J'ai vu que la personne venait vers moi. Et donc là, j'ai compris que ça allait pas en rester là, quoi.
Ouais, ça allait mal finir, quoi.
Ça allait mal finir.
Ok.
Ouais. Suite à ça, les mains sont venues. Hein, à la fin, la personne est tombée par terre. Mon geste, je le regrette fortement. Jamais j'aurais pensé à en venir aux mains pour me défendre, mais j'ai pas eu le choix. C'était lui ou moi. Mmh. Et sur le moment, on pense pas à tout ça. Moi, suite à ça, j'ai pris mon scooter et je suis parti.
Okay.
Voilà. Je suis parti rejoindre mon groupe sur l'espace vert. Hein.
Ouais, tu t'es dit, c'était juste, il y a une petite embrouille et voilà quoi. Après,
exactement.
Tu continues ta soirée.
C'est ça. Et 20 minutes après, on a vu trois camions banalisés, cagoulés, armés. On s'est demandé qu'est-ce qui se passait, hein, comme un convoi.
Ouais. T'as pensé direct, c'est pour ce qui vient de se passer ou t'as pas fait le rapprochement au début ?
Non, pas du tout. Parce que pour moi, l'intercation qu'il y avait eu juste avant, c'était banal, quoi. Il n'y avait rien. Il a cherché, il a pris une rouste et puis basta, quoi. Ouais. J'étais loin de penser à tout ça. Et en fait, plus le convoi se rapprochait de nous, plus je me disais que c'était pour nous. Et là, j'ai vu qu'il nous pointait du doigt et... De là, on a tous pris peur. On a commencé à s'enfuir. Et de là, ben, ils m'ont tiré un coup de flashball et ils m'ont fait tomber en scooter.
Oui, alors que...
Et là, les ennuis commencent.
Que le début. Et toi, il se passe quoi dans ta tête? Tu penses à quoi?
En fait, je pensais à une chose, c'était me barrer, quoi. Mm. De partir. Et quand ils m'ont fait tomber, ben, sur le coup, j'étais sur le choc, hein, parce que je conduisais et je suis tombé violemment. Hein. Donc, quand je me suis relevé, j'ai vu les IGN sur moi. Et je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe?
Ouais, tu comprenais pas en fait pourquoi.
Non, je comprenais pas. Je me disais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a fait? Suite à ça, ben, la garde à vue a duré 72 heures. Pendant 72 heures, j'ai été maltraité. J'ai été menacé, étranglé, insulté. Moi, j'ai tout eu, hein, jusqu'au chef brigadier qui m'a menacé.
Mais pourquoi il se repose? Enfin, tu savais pourquoi t'étais là à ce moment-là ou pas?
Ben non. Et c'est,
pas.
Ouais, et c'est après, menotté aux pieds et aux mains, le chef est venu vers moi, il m'a mis une gifle et il m'a dit « c'est toi qui as tapé mon collègue ». Et c'est de là que j'ai tilté qu'en fait, l'embrouille que j'avais eue juste avant, en fait, c'était un gendarme.
Et ce, en civil qui...
En fait, ce gendarme sortait de son domicile. Et en fait, les domiciles de la gendarmerie étaient à côté du CFA, quoi.
Mmh, ouais, là où t'étais.
Le dortoir, ouais, voilà.
Ok.
Et du coup, en fait, il se rendait au poste de police, quoi, pour prendre ses fonctions.
Ok. Voilà. Et bon, il a quand même... C'est lui qui a commencé, quoi.
C'est lui qui a mis le premier coup, hein. Je suis tombé par terre.
Et ça, la police te reprochait, en gros, que c'était toi qui avais juste embrouillé pour rien et que lui, t'avais rien fait.
Exactement. Bah, en fait, c'est une bande de potes, hein, entre eux. Hein. Donc, tu sois en tort ou pas, leur collègue était au sol. Bon, c'est vrai qu'il avait des séquelles, hein. Je sais pas. Mais j'ai subi quand même. J'ai subi pendant 72 heures.
Et pendant 72 heures, tu as pu dire genre, à ta famille ce qui t'arrivait?
Rien. Rien. J'ai pas eu droit au téléphone, j'ai pas eu à manger ni à boire.
En 72 heures.
72 heures, ouais.
Et t'étais tout seul ou il y avait aussi tes potes qui étaient avec toi dans le parc?
Eh bien, en fait, ils ont embarqué tout le monde et après, ils ont gardé deux personnes. Okay. Moi et un ami à moi. Et okay. En fait, cet ami, quand j'ai tapé le dernier coup qui était mis aux gendarmes, il est tombé au sol et en fait, mon pote m'a vu l'intercation entre moi et lui et il est venu voir qu'est-ce qui se passait. Suite à ça, on a su qu'en fait, mon ami, la veille, s'était fait interpeller par ce gendarme parce qu'il buvait une canette sur la voie publique.
Ouais.
Voilà.
Okay, donc, il l'a reconnu. Et...
Il l'a reconnu. Donc, pour eux, c'était un coup prémédité. On l'avait suivi de son logement et en gros, c'était une vengeance. Mais pas du tout. Moi, je ne savais même pas qui c'était. Ouais, et même mon ami s'en souvenait même plus.
Ouais, tu voulais juste rejoindre tes potes.
Exactement. Exactement.
Okay.
Et suite à ça, 72 heures après, j'ai été à comparaison immédiate au tribunal.
Donc comparaison immédiate, c'est genre t'arrives et t'apprends tout en même temps et eux, ils te jugent en même temps, et c'est ça?
Et bien, une fois que t'as fait la garde à vue, te menottes, ils t'emmènent directement au tribunal et t'es jugé.
Ok, t'as un avocat quand même ou t'as...
Eh bien moi, sur le coup, comme j'ai jamais eu besoin d'avocat, quand ils vous posent la question, vous avez un avocat, ben non.
Bah oui, mais...
J'en ai pas, j'ai pas le temps d'appeler, de prendre les pages jaunes et trouver un avocat, quoi.
Ouais, c'est...
Donc pour le coup, j'ai eu un avocat commis d'office, quoi. Okay. Pas le choix.
Okay.
Et puis, ils ont appelé mes parents en disant, oui, votre fils a tapé un gendarme... Donc, ils n'ont pas vraiment expliqué comment ça s'est passé, quoi.
Et donc, là, ça a été quoi, la comparution immédiate? Ça a duré combien de temps?
J'ai dû y aller vers les coups des 10 heures du matin. Et j'ai dû être jugé à 15 heures. Et avec les délibérés, 18 heures, c'était fini.
Et c'était quoi le verdict?
Eh bien, en fait, au début, moi, je suis arrivé avec mon avocat commis d'office. Lui, il avait un avocat commis par l'armée de terre.
Okay,
donc,
ouais.
Il était bien défendu. Ils sont arrivés à une vingtaine en tenue de gendarme. Donc, auprès du juriste, tout ça, forcément, la biffée, voilà.
Ouais, ça...
Forcément. Et suite à ça, le procureur m'avait mis 24 mois ferme et j'avais 36 mois de sursis. Et la juge, juste avant les délibérés, elle a posé la question au gendarme. Elle a dit, mais monsieur, je ne comprends pas dans l'histoire. Quand on a peur d'un scooter, on fait un pas en arrière. On Parce s'écarte du danger.
Il avait, lui, il s'était défendu en mode, j'ai eu peur du scooter qui est passé. Quoi.
Voilà. En fait, lui, sa raison, c'est qu'il a eu peur du scooter. Donc, c'est pour ça qu'il a réagi de la sorte. Quoi. Il m'a violemment frappé.
Bah c'est vrai que c'est une réaction que tout le monde a, quoi. Tu frappes les trucs dont t'as peur.
Exactement.
Ok, du coup, ouais, la juge a dit ça et...
Et du coup, bah, la juge elle lui a posé la question, pourquoi vous avez tapé violemment le jeune homme en premier ? Parce que quand on a peur d'un scooter, on fait un pas en arrière, on s'écarte du danger et on ne va pas vers le danger. Et suite au délibéré, bah, j'ai pris 6 mois ferme et 12 mois de sursis, quoi.
Punaise. Et ça a commencé direct après le...
Ah, direct.
Donc tu repasses même pas, genre, voir ta famille et tout ?
Ah non, non, non. Moi, j'ai vu juste ma mère qui était au tribunal, hein, assise, et qui subissait tout ça, quoi. Donc j'étais très mal auprès de ma mère, parce que ma mère, elle m'a tout donné, malgré le parcours qu'on a eu. C'était très dur pour moi d'en arriver à là, quoi.
Ouais, tu subissais vraiment, quoi. T'as tout qui t'accablait et...
Ouais, voir ma mère me voir dans cet état-là, me noter... C'est horrible.
Bah oui, forcément.
C'est horrible.
Et t'as pu lui dire un peu ta version, lui parler de tout ça, ou ils ont...
Eh ben non, en fait, j'ai pu en discuter une fois au parloir.
Ah oui, donc sur le moment, même elle devait rien comprendre, quoi.
Elle a rien compris. Elle a juste entendu la version de la gendarmerie.
Oui.
Et pas ma vraie version. Comment s'est vraiment passé, déroulé...
Ouais, c'est ça.
L'histoire, quoi.
Et pendant la comparution, ils t'ont pas, ton avocat, il t'a pas dit plaider la légitime défense, etc. Est-ce que ça a été abordé pendant le...
J'ai pas le souvenir que ça a été abordé. Après, déjà, d'avoir un avocat commis d'office quand on n'est pas dans ce milieu-là, je me suis senti seul à me défendre par rapport à mon acte. C'est vrai qu'il n'y a pas été... se battre dans la rue, c'est vraiment pas bien, malgré que j'ai fait que me défendre. Je suis tombé par terre, mon scooter était fracassé, j'étais à moitié sonné. Quand on a eu les échanges de coups, j'avais le casque avec la visière. La personne en face, ben, malgré que j'avais le casque, j'essayais de le détacher, il me tapait encore. Donc oui, sur le coup, ben, j'ai retiré le casque et j'ai mis un coup. C'est de là où j'ai arrêté vraiment cette embrouille, quoi.
Ouais.
C'était une altercation, quoi.
Ok. Et donc, quand t'apprends que tu vas avoir 6 mois de prison, il se passe quoi dans ta tête ? Tu penses quoi ? Comment tu réagis ?
Ben, sur le coup, tu sais, 72 heures, ça paraît long, mais ça va vite. Et une fois qu'on te dit ta sentence, ben, tu sais pas comment ça va se passer. Hein. C'est, on te prend, on t'emmène après dans un bus, c'est un fourgon à tiroir. Et de là, on te dit, on t'emmène à Gradignan, en prison. Et sur le moment, tu réalises pas encore.
Ouais. Tu te dis pas, c'est un mauvais rêve, je...
Bah si, tu te demandes qu'est-ce qui se passe, ça va tellement vite. C'est, ouais, c'est impressionnant, on s'en rend pas compte sur le moment.
Ouais, c'est ça.
C'est vrai, on s'en rend vraiment pas compte.
Donc tu pars en prison et c'est parti, ça se passe comment le début de ton séjour là-bas, quoi ?
Mais pour le coup, je suis arrivé en prison avec mon ami.
Ok.
Qui est venu pendant l'intercation avec cette personne. Ben, on est arrivé, premier jour, cellule d'arrivant. De là, on est dans une petite pièce 9 mètres carrés où la télé, il y a une vitre dessus, il n'y a pas de fenêtre et il y a 2 matelas. Et là, on se dit vraiment, ben ouais, on est dans la merde. Et on est tout seul. Suite à ça, le lendemain, on a été transféré dans 2 pavillons différents. Et là, ben, je me suis dit, ben, ça y est, hein, je suis vraiment sous écrou dans la prison, quoi. Bon, au début, on a toujours l'image de la prison aux États-Unis où ça fait peur, les viols. Et en fait, ben, c'est loin de tout ça. Hein. La prison française, en soi, si on a un caractère assez fort... Parce que, en fait, on ne peut pas être la même personne en prison qu'à l'extérieur. Hein. Autrement, les gens, ben, ils profitent de vous. Hein. Vous devenez une victime. Ça peut être le dépannage d'une cigarette à être victimisé et cotisé, cantiner des cigarettes pour cette personne. Donc, c'est vraiment, il faut vraiment être en mode sauvage.
Chaque acte a des conséquences après.
Exactement, quoi. Il ne faut pas être gentil, il faut être sur ses gardes, il ne faut, faut rien lâcher. Quoi.
Et tu as rencontré des gens là-bas en prison ou tu n'étais qu'avec ton ami tout seul
Non, moi j'ai rencontré pas mal de gens. Je n'ai pas eu de chance dans mon jugement, mais je pense que j'ai eu de la chance d'avoir trouvé des gens bien dans ce cadre de prison, quoi, qui m'ont pas mal aidé, soutenu financièrement. Car au début, j'avais pas d'argent, pas de cigarettes. Et j'ai pas pu écrire à ma mère. Pour vous raconter, c'est que ma mère m'avait envoyé des feuilles, des enveloppes et des timbres. Je les ai reçus. On me les a donnés le jour où je suis sorti de prison.
Ils ont fait exprès ?
Exactement. Purée. Je sais pas comment je dois le prendre. Hein. Au moment où on vous rend vos effets personnels, on m'a donné les feuilles, les lettres et les timbres de ma mère, quoi. Donc, pendant un mois, je n'ai pas vu ma mère. Suite à ça, au bout d'un mois et demi, ma mère a fait une demande de parloir. Et je ne voulais pas vraiment, parce que ma mère m'a mis au monde, pas pour me voir derrière les barreaux. Donc, j'ai pris sur moi et j'ai voulu la voir pour vraiment lui expliquer le fin mot de l'histoire, comment ça s'était passé. Et je n'étais pas quelqu'un de méchant et malhonnête. Et c'était important qu'elle sache comment s'est déroulée la chose. Et c'était pas moi l'acteur de cette altercation, mais j'étais juste la victime des gestes de cette personne. Et j'ai découvert le milieu carcéral pendant un mois et demi, où là, en fait, le moindre bruit, En fait, la porte, on entend qu'elle s'ouvre, on sait que c'est lors de la promenade, parce qu'on a vraiment. On n'a pas d'heure, on n'a rien.
Il n'y a pas une horloge, genre tu t'es perdu dans ta journée, tu sais pas trop.
Ouais, en fait, nous, on se repère en prison par rapport à la télé, aux émissions.
Ah oui, ok.
Tu vois, c'est vraiment le seul repère qu'on a. Après, on sait qu'il est 17h parce que c'est l'heure du repas du soir.
Ok.
Il faut savoir qu'en prison, à 17h, c'est le repas du soir, quoi.
Et il mange tout.
Ouais. Donc, après, généralement. Ces personnes-là m'ont montré un peu le milieu carcéral. Ce milieu carcéral, j'ai mis à peu près 2 mois
à t'y faire, quoi.
À m'y faire, ouais. Commencer à faire des activités. C'est là où j'ai appris que plus tu fais des activités, plus tu as des grâces magistrales. En fait, plus ton comportement est bon, plus on va te donner des grâces.
Ok.
Il faut savoir si tu te tiens bien tout au long de ton séjour. Du coup, tu as droit à 7 jours par mois qui seront déduits de ta peine. Et si tu fais des activités, que ce soit le sport, aller voir un médecin, aller à l'école, toutes ces activités-là, fait qu'ils te rajoutent encore des grâces.
Ok, donc toi, tu t'es dit, je vais faire des activités.
Exactement, je vais essayer de gratter au maximum pour sortir le plus tôt. Quoi. Et moi, en plus, j'ai vraiment pas eu de chance parce que cette année-là, en fait, c'était les élections Sarkozy-Ségolène. Et chaque élection présidentielle, à l'époque, on donnait des grâces magistrales.
Okay.
C'est-à-dire que le président, une fois élu, il donnait 6 mois, 7 mois de grâce aux prisonniers.
À tous les prisonniers ou aux prisonniers?
À tous les prisonniers.
Ok, ah, je savais pas.
Et Sarkozy, lors de son élection, il a dit qu'il retirait les grâces magistrales.
Ah.
Donc, pendant les élections, les gens qui m'entouraient là-bas me disaient « Tu vas être libéré dans 2 jours, c'est bon, tu sors ».
Oh,
parce qu'il y a les grâces magistrales. Donc je m'étais dit, c'est cool. Et finalement, il a annoncé à la télé qu'il n'y aurait pas de grâce.
Donc
j'ai dit purger ma peine jusqu'au bout. Et j'ai fait à peu près 4 mois et demi. Quoi.
Et tu as compris directement l'impact que ça allait avoir après sur ta vie d'être emprisonné?
Je pense que, franchement, je regrette ou non d'être rentré en prison, mais ça m'a permis d'ouvrir les yeux. Et parmi tout ça, faire un choix dans mes fréquentations.
Mm-hmm.
J'ai vu des gens en prison sortir et re-rentrer. Et pour eux, c'était normal.
Genre, ils retombaient après et ils n'avaient pas appris de leur leçon.
Non.
Quoi.
Et je me suis dit, je ne veux pas être ce genre de personne. Parce que c'est vrai que la prison en soi, c'est surmontable. Si on a le mental. Mais c'est pas une vie. Et moi, je voulais pas de cette vie-là. J'ai toujours été bosseur. On m'a toujours inculqué une éducation où il faut rentrer dans le système et bien s'intégrer dans le système. Et pour ça, il faut travailler. Il faut voilà quoi. Et moi, j'avais un but dans la vie et c'était pas celui-là. Donc, suite à ça, en sortant de prison, j'ai eu pas mal de perquisitions chez mes parents parce que je connaissais des mauvaises personnes. Des mauvaises personnes dans le sens où c'est pas des gens qui pourront t'apporter plus tard quelque chose dans la vie et te faire avancer. Parce que le fond de la personne était bonne. Mmh. Mais ce qu'il faisait à côté, ça t'apportait rien de bon. Et suite à ça, ben, j'ai quitté mon cocon familial chez mes parents. Et je me suis débrouillé du jour au lendemain à faire de la sous-location. J'ai vraiment voulu sortir de là pour plus que la police vienne chez mes parents. Okay. Parce que je voyais ma mère que j'étais en train de la détruire. Mm. Et juste de voir ma mère comme ça, c'était horrible pour moi. Donc j'ai préféré partir. Suite à ça, je me suis relevé petit à petit. Moi, j'ai perdu presque 20 kilos. Hein,
ah oui.
Parce que forcément, quand tu te débrouilles comme ça, tu ne manges pas vraiment comme tu veux. Et même à compter ton argent avec une calculette, à faire tes courses, j'ai connu vraiment la merde.
Mmh. Et tu avais arrêté tes études les études que tu faisais avant, en prison, tu as dû mettre pause
Alors, je n'ai pas fait d'études vraiment en prison. C'était,
ils t'ont tout coupé, quoi.
Voilà. Alors, en fait, en sortant de prison, j'ai voulu reprendre mes études. Mmh. Tout le monde avait joué le jeu, hein, les profs, profs d'histoire, tout ça. J'ai pu rattraper mes contrôles continus. Donc, j'ai dû pas mal travailler pour rattraper tout ce retard. Et en février de ma deuxième année de bac pro, en fait, j'ai su que l'académie avait refusé mon dossier parce que j'avais ma prof de PS m'avait mis un zéro pendant mon absence. Donc, qui est éliminatoire. Et suite à ça, j'ai dit, écoute, j'ai plus ma place ici, ça sert à rien que je reste au CFA. Donc de là, j'ai voulu justement faire une formation à l'ECF. Sur 80 candidats, on était 8 têtes reçues. Okay. Par contre, j'avais un chômage tellement misérable que je pouvais même pas m'assumer. Mm. Donc du coup, j'ai préféré justement faire de l'intérim et travailler, histoire de remonter un peu ce chômage, quoi. Suite à ça, j'ai connu une fille sur Bordeaux. Son père était membre du jury à l'AFPA. Il m'a fait travailler un peu en manœuvre dans le bâtiment.
Okay.
Et quand il a vu que j'étais très manuel et j'étais bon dans ce que je faisais, il m'a proposé justement de me former à l'AFPA et faire plusieurs formations.
Okay. AFPA, c'est quoi pour ceux qui connaissent ça ?
C'est une formation en accéléré.
Ok, donc tu as commencé à être formé et à travailler vraiment avec le père de cette fille.
Alors en fait, j'ai fait 12 mois de formation.
Ok.
Tout corps d'état, la plomberie, l'électricité, le carrelage, le placo, la peinture. Et je devais être le meilleur de ma formation pour montrer et remercier cette personne m'avoir donné l'opportunité de faire cette formation, qui était aussi financée par le conseil régional. Hein. C'est une formation qui coûte à peu près, je crois, 36 000 euros.
Okay.
Suite à ça, il m'a pris avec lui dans la société dans laquelle il travaillait. 2 ans après, il y a eu un licenciement économique. Donc, mon ancien beau-père s'est retrouvé aussi au chômage et il a voulu se lancer à son compte. Donc, moi, je l'ai suivi. Suite à ça, il a eu des petits soucis financiers au sein de sa société. Donc, j'ai compris que c'était le moment de prendre mon envol. Et en plus, avec sa fille, ça se passait plus très bien, donc je me suis séparé. Et de là, je suis parti dans une société de dépannage.
Ok.
Voilà. Et cette société de dépannage, en fait, je leur ai apporté une branche de rénovation dans le bâtiment, qui, eux, à la base, faisaient que du dépannage. Et un soir, en débauchant un vendredi, des clients pour lesquels on avait fait des travaux de rénovation dans un bar m'appellent en me disant qu'ils avaient une coupure d'électricité. Donc, quand j'ai appelé le bureau, ils m'ont dit qu'on ne viendrait que mercredi. On ne pouvait pas venir maintenant, malgré que j'étais disponible. Donc, moi, en voyant ça, j'ai quand même une âme professionnelle. Mm. Et j'ai rappelé le client, j'ai dit, écoute, je viens de dépanner discrètement, tu dis rien. Ça a porté ses fruits parce qu'un jour, il a voulu ouvrir un nouveau restaurant, un bar, un speakeasy.
Ok.
De là, il m'a dit, écoute, je voudrais que tu fasses mon restaurant. J'ai dit, appelle le bureau. Et il m'a dit, non, toi. Et c'est de là, je me suis lancé. J'en ai parlé à ma femme, qui m'a encouragé à me mettre à mon compte. J'avais peur, car j'avais une petite fille. Et je me demandais si vraiment suite à ce chantier, j'allais pouvoir continuer par la suite. Et ma femme m'a donné tout le soutien pour me lancer dans ce projet, de me mettre à mon compte. Et elle m'a soutenu jusqu'à maintenant. C'est en partie grâce à elle où vraiment j'ai pu développer la société.
Donc, tu as quitté ton ancien taf.
Exactement. J'ai eu l'opportunité et je l'ai saisie. Je suis parti en vacances. 15 jours après, en revenant de vacances, j'ai donné ma démission.
OK.
Et je me suis lancé à mon compte. Alors oui, j'ai entreprendre les choses comme ça, c'est jamais évident. On a toujours la peur.
Un peu, c'était un milieu que tu connaissais vraiment ou tu découvrais en même temps plein de nouveaux...
Non, dans le bâtiment, j'étais assez indépendant parce que dans le sens où mon ancien patron me laissait tout gérer. Okay. Je gérais les équipes, les fournisseurs. Donc j'avais déjà cette habitude-là d'entreprendre les choses. Le plus dur, c'était de justement formuler des devis hein, pour vendre. Ça, je l'ai appris sur le tas. Et c'est surtout la peur de se dire, oui, tu fais ce chantier-là, mais qu'est-ce que tu vas avoir derrière ? Sachant que moi, j'avais déjà une petite fille, c'était pas évident, quoi. Les choses ont fait que, en faisant bien les choses, en étant une bonne personne, on reflète des ondes positives. Et d'y croire, j'ai avancé. Et maintenant, j'ai fait une quarantaine de restaurants sur Bordeaux, quoi.
En quoi ? En combien de temps, en tout ?
En 7 ans.
Ouais, donc juste avec un petit acte de gentillesse et de « je vais vous aider ».
Exactement.
Et la déterre aussi, parce que tu aurais pu juste écouter ton patron et te dire « bon, j'irai mercredi, quoi ».
Exactement.
Et tu serais passé à côté de cette opportunité. Et...
C'est ça, exactement.
Et du coup, aujourd'hui, ta vie, elle ressemble à quoi ?
Je suis à l'abri. J'ai 2 enfants, une belle femme, une belle maison. Je fais mes courses sans regarder.
Ouais.
Ça, je crois que c'est la plus belle chose. C'est de quand tu fais tes courses, tu ne regardes pas. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix. Ouais, c'est génial, quoi.
Ça t'a forgé tout ce que tu as vécu avant pour... Pour là où t'es aujourd'hui, quoi.
Exactement. Et suite à ça, ma mère, à 27 ans, pour la première fois, elle m'a dit « Je suis fier de toi, mon fils. »
Oh, ouais. C'est trop chou.
Parce qu'en fait, j'ai jamais rien demandé à mes parents. Je me suis tout payé. Moi, j'ai 2 sœurs et j'ai 3 demi-sœurs. Je me suis débrouillé vraiment tout seul et je suis parti de chez mes parents. J'ai tout laissé, mes vêtements, tout. Je suis parti du jour au lendemain avec un sac à dos et je suis jamais revenu. J'ai fait ma route tout seul et quand elle a vu où j'en suis venu, et même, même dans la famille. Vous savez, la prison, on vous dit, quand vous êtes en prison, il n'y a plus d'amis. Moi, j'ai des amis, ils m'ont écrit, mais ma propre famille m'a tourné le dos.
Ah ouais ?
J'avais que ma mère. Et ça, ça reste. Et ma mère, elle est d'une famille de 12 frères et sœurs. Et c'est vrai que mes tantes, à chaque fois, je sentais que j'étais mal jugé. Sans avoir fait de la prison, votre milieu social, où vous êtes, tout ça... forcément, était totalement différent de mes cousins qui vivaient dans des petites maisons au centre-ville. Donc, on était vraiment un peu mal vus et maintenant, j'en suis fier. Et j'avoue que ça m'a permis de voir les choses. Et la famille, on ne la choisit pas, ses amis, on les choisit. Et je pense que ma plus belle famille, c'est mes amis.
Oh, c'est beau.
Et ma mère.
Ouais.
C'est ma première femme de ma vie. Hein.
C'est trop chou.
Et j'en suis reconnaissant parce que la personne que je suis, c'est elle qui me l'a apporté, qui me l'a donné, avec toutes ces valeurs-là. Et voilà, son caractère fait que celle qui me l'a transmis, elle aussi, elle a galéré. Hein. On est d'une famille italienne. Ils sont venus là après la guerre, avec les 12 frères et sœurs. Elle a galéré pas mal. Et je voulais lui donner ça, quoi. C'était mon plus beau cadeau pour elle, c'est que je réussisse, quoi.
T'as réussi.
Voilà, quelle n'est pas l'image qu'elle m'a vue en prison.
Ouais. En tout cas, c'est trop beau. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire aux personnes qui nous écoutent et qui se cherchent aussi ou qui ont peut-être un parcours similaire
Dans la vie, il ne faut jamais se rabaisser. Avoir un but, un pourquoi. Pourquoi on travaille, dans quel but. Parce que travailler pour gagner de l'argent, ça n'a aucun sens. Manger pour travailler... travailler pour manger, on va pas loin. Donc, avoir un but et des objectifs, c'est ce qui permet d'avoir de la force et d'entreprendre les choses et jamais se dire je peux pas. En fait, moi, il y a une chose que j'aime pas, c'est ne pas savoir faire. Si je sais pas faire, je vais me donner les moyens pour savoir faire. Dans la vie, on peut tout avoir. Je me souviens quand j'étais stagiaire, apprenti, vous savez, quand vous êtes dans le bâtiment, la personne de droite et la personne du milieu, parce qu'il y a trois places, le milieu, c'est le stagiaire. Il y a le chef qui conduit et à droite, c'est le sous-chef. Et je me souviens, je regardais les belles voitures, tout ça, je me disais, mais qu'est-ce qu'il a fait pour avoir ça, tout ça. Mais en fait, on peut tous l'avoir. Il suffit juste de se donner les moyens.
Ouais. De savoir où tu veux aller, de ne pas avoir froid aux yeux aussi et de... d'oser, quoi.
Exactement. Et être opportuniste.
Et être opportuniste. Prendre toutes les opportunités qui s'offrent à vous.
Exactement. Même si ce n'est pas évident, il faut y aller.
Mais au pire, ça apporte forcément quelque chose en soi. On se construit forcément, même si c'est peut-être une mauvaise expérience ou quelque chose.
Exactement. Voilà. Ça, après c'est... chaque échec, il y a les réussites.
C'est trop bien. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour le futur? Tu vois, comment ta vie future?
Ma vie future, je la vois surtout pour mes enfants.
Oh.
Surtout ça.
C'est trop beau. Trop bien. Merci beaucoup, Mickaël, d'être venu raconter ton histoire, en tout cas dans le podcast. J'espère que ça vous aura plu. C'est une histoire qui est belle et inspirante. Donc, j'ai hâte d'avoir vos retours. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve mardi prochain pour le prochain épisode du podcast. Cordialement, Zoé.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.